Salut à tous, bienvenue pour ce 26e épisode du podcast de Rendez-vous Création. On va parler aujourd'hui de rédaction d'un livre d'analyse, en particulier sur les évolutions de l'industrie de la musique. Et pour ça, je me trouve avec Borey Sok. Salut Borey.
Salut Nicolas.
On se trouve à la Gare du Nord.
Oui, tout à fait.
Dans une petite brasserie qui s'appelle l'Alysée. Alors Borey, t'es blogueur.
Oui, tout à fait, depuis un peu plus d'un an.
L'adresse de ton blog, c'est...
Donc l'adresse de mon blog, c'est socboreille.blogspot.com, c'est un peu compliqué et pour détourner un petit peu cette complication, je vous invite à taper dans votre moteur de recherche musique 2.0 ou alors Boreille, B-O-R-E-Y.
Et voilà. Et donc surtout, la raison pour laquelle on se voit aujourd'hui, c'est que tu es l'auteur d'un livre qui s'appelle Musique 2.0.
Tout à fait, je suis l'auteur de ce livre qui est édité par l'IRMA et préfacé par Olivia Bécassis. C'est un livre qui est dédié aux artistes, aux musiciens, aux chanteurs, aux internautes qui s'intéressent à ce sujet et bien évidemment aux professionnels de la musique et des nouvelles technologies.
Alors au départ, c'est un mémoire de fin d'études. Un mémoire de fin d'études, c'était quelles études au départ ?
Alors je suis assez récemment diplômé d'une école de commerce. Pour vous en dire plus, j'ai eu des expériences en tant que stagiaire chez Skyrock, puis chez Warner Music France, où j'ai pu voir de l'intérieur comment aussi bien une radio assez importante et une major fonctionnaient. J'ai eu des expériences après dans un petit label indépendant et aussi j'ai organisé beaucoup de festivals dans une association sur Paris, festival pur artistique. Donc j'ai, on va dire, une expérience qui est assez de terrain, où j'ai été en studio, je me suis occupé de la logistique, de la direction artistique et aussi de l'aspect un peu plus marketing de la création et notamment de la musique. Et suite à ces différentes observations et étant passionné bien sûr de musique, j'ai décidé d'écrire un mémoire qui s'intitulait « Le marketing sauvera-t-il l'industrie du disque de la crise ?» qui a rencontré un franc succès auprès du jury de mon école et de professionnels, parce que je me suis dit autant faire profiter un maximum de gens mon travail, et ils m'ont tous poussé à le publier.
Donc au départ, l'idée du livre, finalement, l'idée du mémoire vient des stages que tu as fait.
L'idée du mémoire vient effectivement des stages que j'ai faits, vient aussi du contexte du marché du disque. Il y a un an, les maisons de disques étaient vraiment enlisées dans la crise et on était dans une période, on va dire, assez morose pour les majors, mais aussi assez excitante parce qu'il fallait trouver des solutions, il fallait chercher comment innover. Et cette crise arrivait également avec l'arrivée de ce qu'on appelle le web 2.0, donc un véritable phénomène sur le web où les internautes, les nouveaux outils d'Internet ont permis aux internautes de pouvoir mieux réagir, de mieux interagir entre eux. Donc ça a ouvert de nouvelles opportunités.
Alors là, j'ai ton livre entre les mains et je vois chapitre 1, la crise de l'industrie du disque, explication. Deuxième grand chapitre, le marketing appliqué au nouveau marché. Troisième grand chapitre, l'internaute, acteur et l'artiste au centre des nouvelles solutions. Alors du coup, ça me fait penser forcément à quelques petites questions sur justement l'évolution du marché de la musique. On est passé d'un média à un autre. Il y a un moment, on était sur le vinyle, on est passé à la cassette, on est passé au CD. En ce moment, on est en train de passer plutôt, au fichier qu'on achète ou qu'on loue sur le web.
Ou qu'on télécharge aussi gratuitement.
Ou qu'on télécharge.
Tu peux le dire.
Voilà, exactement. D'après toi, pourquoi est-ce que l'évolution de l'industrie musicale par rapport à ce nouvel environnement Internet, pourquoi est-ce que cette évolution est aussi lente ?
Je pense que les maisons de disques, elles n'ont pas complètement ignoré les nouvelles technologies et le format MP3. Je ne suis pas non plus un fervent défenseur des majors, mais ce que je veux dire, c'est qu'elles sont pas complètement, elles sont pas idiotes. Je veux dire, elles ont bien vu qu'Internet arrivait, etc. Quelles sont les réticences qu'il y a eu vis-à-vis de ce nouveau média ? Dans un premier temps, c'est qu'en 2002, il y a eu une crise qui a engendré une bulle, la fameuse bulle Internet. Et c'est vrai que ça a rendu les maisons de disques assez réticentes quant à l'utilisation de ce média. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est qu'il fallait réunir énormément d'acteurs pour trouver un format sur lequel ils pouvaient trouver une entente, donc, en termes de distribution, et également un prix. Donc il y avait les maisons de disques, les distributeurs, les opérateurs, les FAI, donc les fournisseurs d'accès internet, etc. Donc un ensemble d'acteurs, parce que le marché à l'époque était assez segmenté, il y avait beaucoup plus d'acteurs que maintenant où on voit des espèces d'oligopoles se former. Et donc ça, c'est une difficulté qu'elles ont rencontrée. Néanmoins, on peut pas nier que les maisons de disques ont peut-être pas anticipé l'évolution et le potentiel d'Internet, et qu'elles ont simplement utilisé Internet comme une simple vitrine, ce qui n'est plus le cas maintenant, et ce qui ne doit pas être le cas.
Et alors d'après toi, dans l'avenir, quels nouveaux services on va voir émerger ?
C'est intéressant que tu parles de services, parce qu'effectivement c'est important. Je pense qu'on n'est plus dans l'acte d'achat simplement de musique sur Internet, et il faut développer une véritable relation avec l'artiste, parce qu'on n'achète plus de la musique pour ce qu'elle est, mais aussi on achète de la musique par rapport aux valeurs de l'artiste, par rapport au message qu'il veut faire passer, mais aussi par rapport à soi-même, c'est-à-dire à sa propre identité. C'est-à-dire j'achète de la musique pour aussi montrer ma... Enfin, j'achète de la musique et je recommande de la musique pour montrer ma singularité, pour montrer mon statut social, pour montrer ma personnalité. Donc, effectivement, je pense qu'une des voies vers des solutions, ce serait effectivement proposer des services relationnels avec l'artiste, dans le sens où, effectivement, il faut également faire partager l'univers de l'artiste. Ça passerait par quoi ? Bah, carrément faire participer les internautes dans le processus de promotion de l'artiste, dans le processus de création. Alors, ça ne veut pas dire que, bien sûr, les internautes vont prendre la place de l'artiste. Ça veut dire que l'artiste va intelligemment utiliser ou faire participer les internautes dans ses clips, dans pourquoi pas sa musique, mais de manière intelligente et créative, tout en respectant son propre univers.
Donc tu penses à des créations collaboratives ?
Pas toujours. Je pense que l'artiste, néanmoins, doit être maître de sa création et bien sûr, est au centre de la création. Néanmoins, ça ne l'empêche pas, bien évidemment, d'entretenir une forte relation avec ses fans.
Tu peux nous dire deux mots sur les projets que tu as en cours ?
Non, pour le moment, je peux pas parler des projets sur lesquels je travaille. Mais ce que je peux dire...
Ça va être chaud.
Ça va être très chaud. Non, ce que je peux dire, ce que je peux conseiller, parce que voilà, le bouquin aussi, c'est un bouquin qui a pour but de conseiller les artistes et d'apporter des idées, d'inspirer les artistes sur la manière dont ils doivent se promouvoir sur Internet. Parce qu'un artiste, maintenant, il ne doit plus être cantonné à simplement son œuvre d'art, mais aussi s'ouvrir aux nouvelles technologies. Je pense que ça, c'est important. Et le conseil que je peux donner aux artistes, c'est voilà, pour les artistes en développement, l'opportunité que vous avez, c'est justement, du fait que vous êtes en développement, c'est d'essayer de créer une proximité avec vos fans, de manière à ce qu'ils soient les catalyseurs de votre promotion. Vous faites un concert, il y a 50 personnes, ok, il y a 50 personnes, parmi ces 50 personnes, vous avez 10 fans qui vous adorent, faites-les venir en coulisses, discutez avec eux, proposez-leur de participer à l'élaboration de votre page MySpace. Voilà, intégrez-les dans le processus de développement. Ça leur fera plaisir parce qu'ils seront plus proches de leurs artistes. Et voilà, c'est des conseils pratiques que je peux donner et que les artistes pourront retrouver dans le livre. Alors, c'est marrant que je parle de catalyseur parce que j'en profite de parler d'une association dans laquelle j'œuvre. Mmh. Parce que je suis membre d'une association qui s'appelle Catalyseur Numérique,
ouais.
Qui a été fondée par Tariq Krim, qui est le CEO de NetVibes. Et dont Sylvie Krustulovic est aussi la secrétaire générale. Et c'est une association qui a pour but de conseiller les artistes bénévolement à travers des conférences, à travers le blog des catalyseurs numériques qu'ils pourront retrouver sur le site Génération MP3 et à travers des podcasts audio, vidéo. Donc je les invite aussi à regarder ce site.
Alors en parlant de podcast, oui. Juste avant la diffusion de cet épisode, donc ouais. Le numéro de 26 qu'on est en train d'enregistrer, sur rendez-vous-création.org, on va diffuser le début de ton livre, qui est lu. Donc ça va être inclus dans le flux audio du podcast de Rendez-vous-création.
Super.
Alors, rentrons dans le vif du sujet. La préparation du livre, comment l'idée est venue, on en a parlé. Hein, c'est
oui.
Depuis les stages que tu as fait, donc l'expérience, notamment chez Skyrock, apparemment.
Ouais. Je veux aussi ajouter que c'est ce travail, enfin l'idée de d'écrire un bouquin, c'est aussi issu d'un long travail de veille que j'ai effectué pendant un peu plus d'un an. Mmh. Et les gens pourront le constater, notamment à travers mon blog. Et ils verront qu'il y a plus de 360 posts sur la promotion de la musique, les nouvelles technologies, le marketing, la communication. et les nouveaux outils du web à travers une bonne vingtaine de podcasts vidéo. Pour donner un exemple concret, j'ai podcasté Marc Mayer, le DG de MySpace, et des podcasts audio, des nombreux posts, des études de cas sur lesquelles les artistes pourront s'appuyer pour essayer de se développer et trouver des idées. Donc c'est aussi voilà, le travail et aussi le fruit d'un travail collaboratif avec les gens que j'ai rencontrés. Parce qu'à travers ce blog, j'ai noué beaucoup de contacts, j'ai reçu on va dire plus de 200 mails d'étudiants qui m'ont demandé des conseils, avec qui j'ai pu échanger, des professionnels aussi avec qui j'ai échangé des idées, que j'ai rencontrés aussi dans le monde physique, on va dire, tout comme toi, avec qui je prends des cafés, avec qui je déjeune. Et c'est aussi voilà, le fruit d'idées que des gens m'ont communiqué et que j'ai voulu faire partager.
Donc il y a un travail de veille.
Tout à fait.
Et sur ce travail de veille, quelle est ta méthode de travail principalement? Comment est-ce qu'après tu construis l'analyse?
Alors, dans un premier temps, je pense, enfin, j'utilise des outils d'information qui sont assez efficaces comme NetVibes. Donc c'est un agrégateur de flux.
Salut Tariq.
Salut Tariq. Donc je vais faire de la pub pour NetVibes et salut Franck aussi de NetVibes.
Franck Mahon.
Voilà. Ah, tu connais aussi Franck Mahon. Bon bah pour le coup.
Et des
et oui, donc NetVibes, ce qui est pratique, c'est que par exemple pour s'informer sur un sujet en particulier ou aller voir les titres des journaux, on n'a pas à visiter tous les titres en tapant lefigaro.com, lemonde.com, l'expansion.com, etc. Mais on va s'abonner aux différents flux RSS. Pour pouvoir visionner sur sa page NetVibes tous les titres directement.
Donc ça c'est pour la veille.
Ça c'est pour la veille. C'est vrai que j'ai un panel, voilà, je surveille, je scrute un certain nombre de journaux sur les nouvelles technologies, aussi comme Ratiatom qui est pour moi aussi une référence.
Salut Guillaume.
le journal du net. Re-salut Guillaume parce qu'il s'appelle aussi Guillaume. Voilà, donc c'est vrai que voilà, il y a des journalistes avec qui je suis en contact aussi qui m'envoient des infos. Et également des professionnels de la musique.
Et après, comment tu synthétises tout ça? Comment tu organises?
Alors, je résume, parce que parfois les articles sont un peu trop longs. Je résume, j'apporte de temps en temps mes petites idées. Et je fais également des études de cas. Très concrètement, j'ai fait un gros travail, je pense, sur Terra Naomi, qui est la star sur YouTube, qui a été élue artiste, on va dire, de l'année 2006. Pour vous donner un exemple de travail de veille, c'est que je me suis amusé à regarder toutes les vidéos de ses fans, à faire un travail statistique, c'est-à-dire que j'ai additionné le nombre de vidéos vues. Donc voilà, j'ai aussi essayé de quantifier tout le travail qui a été fait par Terra Naomi et quantifier le résultat. Je l'ai interviewé, donc il y a une interview en anglais de Terra Naomi écrite. Donc j'ai analysé aussi ses stratégies marketing qu'elle a mis en place assez naturellement. Alors quel exemple concret je peux donner aux artistes qui serait intéressant pour eux? C'est que
la participation au clip.
Alors il y a la participation au clip effectivement qui a été hallucinant, mais même avant ça, Terra Naomi c'est une artiste qui s'est dit bon voilà, je suis en développement, j'ai pas les moyens de me payer une salle de concert, j'ai pas les moyens de me payer un tourneur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais organiser une tournée virtuelle, c'est-à-dire que toutes les semaines elle a posté une vidéo d'elle en train de s'enregistrer en acoustique, en train de jouer un titre. Et c'est vrai que c'était une excellente stratégie pour fidéliser son public, une excellente stratégie dans le sens où les gens ont suivi peu à peu ses nouveaux titres durant 2-3 mois pendant toutes les grandes vacances. En fait, c'était assez intéressant de voir au fur et à mesure les vidéos de plus en plus vues. Et elle a réussi à fédérer une véritable communauté autour de ça. Donc c'est une excellente stratégie pour fidéliser le public sans non plus dévoiler l'intégralité de ses titres, puisqu'elle joue en acoustique, enregistrée avec sa webcam. Donc c'était pas non plus une qualité de son qui est exceptionnelle et une qualité d'image qui est exceptionnelle. Ça c'est une première chose. Et en postant ses vidéos sur YouTube, de fait, son succès a été international. Ça c'est par exemple pour les artistes d'électro, c'est ce que je préconise, parce qu'au Japon l'électro c'est une musique qui cartonne. Et en essayant de se développer via internet sur le marché japonais, ça peut être super quoi. Ça peut être une excellente initiative et ça peut avoir de super résultats.
Même si les vidéos sont pas super qualité.
Bah là, pour donner un exemple, Terra Naomi a enregistré ça sur sa webcam. Donc c'est vraiment. Après, bien sûr, il faut une qualité qui soit regardable.
T'as rencontré des artistes, t'as aussi rencontré des maisons de disques, t'as rencontré divers acteurs de l'industrie musicale.
Oui.
Comment t'as organisé les rencontres?
comment j'ai organisé les rencontres, ça s'est fait essentiellement, par exemple, bah, comme pour toi, on se rencontre autour d'un café, autour de podcasts vidéo, ou alors des échanges de mails, tout simplement, des échanges téléphoniques.
T'as rencontré des obstacles ?
Pas beaucoup, honnêtement, j'ai rencontré très peu d'obstacles. Dans l'ensemble, pour te donner... Pour donner un exemple, par exemple pour le livre, j'ai demandé à des professionnels de le commenter parce que j'ai bien conscience que j'ai pas forcément une légitimité à écrire un bouquin et à imposer mes idées parce que c'est pas le but du livre. Le but c'est de proposer des idées, d'ouvrir une discussion et de la poursuivre sur le blog. Mais je voulais avoir quand même l'aval de certains professionnels de manière à ce que les gens se disent mais c'est qui lui, il sort d'où et qui c'est pour dire ça quoi. Et de manière assez naturelle, Gilles Bambinet, donc, qui est le fondateur de MusiWave et le fondateur d'Aika et le fondateur aussi d'une société qui s'appelle MXP4 Interactive Music, qui a monté un certain nombre de boîtes, a accepté gentiment de lire le mémoire et le bouquin et de le commenter. Y a Nicolas Gilbert de Yahoo Music. Donc y a bien sûr Olivia Bécassis qui a non seulement commenté le bouquin et qui l'a aussi préfacé. Il y a Guillaume Quellet qui est digital manager chez V2 Music. Et c'est des gens avec qui les choses se sont faites assez simplement, qui ont été très ouverts. Je leur ai envoyé le mémoire, ils l'ont lu, ils m'ont répondu. En gros, c'est ça. Donc j'ai beaucoup apprécié finalement cette approche-là, parce qu'elle s'est faite de manière naturelle et très professionnelle.
Au moment où tu as décidé d'en faire un livre, j'imagine que tu as commencé par chercher un éditeur, non ?
Assez curieusement, j'ai commencé par me dire comment je vais faire le bouquin. Parce que je voulais pas publier le mémoire tel quel. Le mémoire était très très scolaire. Et encore très formaté, économie, école de commerce, etc. Et quitte à publier un livre, autant qu'il serve et qu'il serve un petit peu d'outils, de manuels sur lequel l'artiste peut se baser.
Donc le sommaire qu'on a là, c'est pas le sommaire de ton mémoire.
Alors, il y a une partie effectivement qui est très proche du mémoire, à savoir l'analyse que j'ai faite de l'industrie de la crise de l'industrie du disque.
Ouais, donc le premier chapitre.
Tout à fait. Pourquoi ? Parce que c'est important de comprendre la crise avant de comprendre les solutions de manière à ne pas faire les mêmes erreurs. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Et aussi parce que les artistes n'ont pas forcément une vision globale du marché du disque et de manière à se dire où est-ce que je vais aller ? Dans quelle direction ? Est-ce que je vais vers les indés ? Est-ce que je vais vers les majors ? Quel choix je vais faire ? Et quel choix est le plus en adéquation avec ce que je veux faire et aussi par rapport à mon image. Ça, c'est une chose. Donc effectivement, la première partie est très proche du mémoire. Mais je voulais pas que ça soit simplement un pur travail d'analyse. Et c'est pour ça que j'ai réfléchi à un nouveau modèle économique, parce que bien entendu, entre la publication entre guillemets de mon mémoire et le jour où j'ai voulu le publier en livre, il y a un certain temps qui s'est écoulé et l'industrie du disque, ça bouge à une vitesse incroyable. Donc je me suis dit, je vais réfléchir à un nouveau modèle économique, je vais essayer aussi de faire le point sur les nouveaux outils qui peuvent servir aux artistes et essayer d'écrire un espèce de manuel. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un podcast, qu'est-ce que c'est qu'un blog, qu'est-ce que c'est qu'un flux RSS, qu'est-ce que c'est qu'une page MySpace, comment on peut s'en servir, qu'est-ce que c'est qu'un buzz, comment on peut générer le buzz. Voilà, des astuces.
Ça, c'était pas dans ton mémoire.
C'était pas du tout dans mon mémoire, parce que c'était pas l'objectif de mon mémoire. Donc du coup, j'ai vraiment voulu tourner le livre pour les artistes et aussi pour les internautes, parce que la musique, parce que le Web 2 a généré un nouvel usage de la musique, c'est-à-dire on écoute plus simplement la musique, comme je te disais précédemment, on s'en sert comme élément de sa propre identité. Et aussi parce que la musique peut être un service en soi. Exemple concret, c'est sonoriser son blog.
Et oui.
Tout simplement. Sonoriser son blog. Et voilà, donc c'est des choses que je voulais mettre en avant de manière assez simple, parce que je donne la définition de ce que c'est qu'un podcast, un blog, etc. Et aussi de manière pratique, puisque je dis comment il faut s'en servir.
Alors je vais te soumettre un argument qu'on entend souvent, qui est que effectivement il y a des artistes qui ont très bien réussi grâce à Internet, mais finalement il y en a très peu, étant donné l'ensemble des musiciens qui cherchent à percer grâce à Internet. Donc quand on te donne ce genre d'argument, comment est-ce que tu te positionnes par rapport aux solutions que tu préconises ?
Bien justement, les solutions que je préconise ont pour but de mettre à disposition des outils à tous les musiciens, quels qu'ils soient, de manière à ce qu'ils se fassent connaître, eux, avec leurs propres moyens. Après, je pense que, mine de rien, le constat qu'on peut faire depuis les quelques mois qui se sont écoulés, c'est que de plus en plus d'artistes émergents sur Internet sont signés. que ce soit dans les labels ou les maisons de disques. Ça, c'est une tendance et qui va s'accentuer, je pense, au fil des années. Donc, de plus en plus, les artistes ont une chance, ont encore plus d'opportunités pour être signé en maison de disques, et je dirais même de négocier avec les maisons de disques, dans le sens où, à partir du moment où un artiste a sa propre communauté sur Internet, a réussi à générer une certaine audience, à fédérer une certaine communauté, il a un poids, il sera en mesure de négocier plus facilement avec la maison de disques ses contrats.
Donc ta réponse, c'est ça n'est que le début, ça va...
Ça n'est que le début, ça va continuer. Et justement, il ne faut pas que les artistes se disent « Voilà, il faut absolument que je sois signé chez Universal, chez Warner, chez EMI, chez Sony BMG. » Il faut savoir qu'il y a d'autres structures, il n'y a pas que les majors. Les majors le savent très bien aussi. Certes, elles regroupent 80% du marché, mais la musique, ce n'est pas seulement un marché. Il y a aussi les labels indépendants. Il y a des nouvelles plateformes émergentes qui sont absolument fascinantes. Il y a Artist, il y a Jamendo, il y a Reshape Music. C'est des plateformes qui arrivent avec des nouveaux modèles économiques, où il y a une vraie proximité avec les artistes, où il y a des liens qui sont créés avec les internautes. Et c'est peut-être aussi, quelque part, des structures qui peuvent correspondre à des artistes qui cherchent tout simplement à se développer, à se faire entendre.
Mais justement, quand on se met dans la peau d'un artiste qui, au début de sa carrière, faire un choix, comme par exemple le choix d'une plateforme comme celle dont tu viens de parler, c'est un choix extrêmement important. Donc forcément, on peut imaginer une certaine frilosité. Et peut-être même un repli vers les majors, parce que justement, ça correspond à quelque chose qui a marché et qui est peut-être réconfortant quelque part.
Ce qu'il faut savoir, parce que dans le bouquin, je donne pas la formule magique qui va permettre à tous les artistes de réussir. Je l'ai pas, je pense pas qu'elle existe. Il y a deux choses qui sont incontournables pour la réussite d'un artiste, je pense. Pour moi, c'est dans un premier temps le talent. Si un artiste n'a pas de talent sur Internet, il n'arrivera pas à émerger, il n'arrivera pas à se faire connaître. C'est une première chose, le talent.
Logique.
Et dans un deuxième temps, le travail. Donc, si l'artiste a le talent, il va attirer, il va réussir facilement à conquérir les internautes. Et s'il travaille, il va pouvoir maintenir cette conquête des internautes et surtout les fidéliser. En entrant directement en communication avec eux, en répondant à leurs commentaires, en répondant à leurs questions, en leur proposant plus de contenu. Voilà. Et c'est à partir de cette communauté-là qu'ils vont pouvoir générer de la valeur. Alors les gens vont me dire, oui, mais rien n'empêche aux internautes d'acheter ou de télécharger illégalement la musique. Enfin, plutôt de télécharger illégalement la musique. Je pense qu'au-delà de la simple conquête et fidélisation des fans, il y a aussi un travail qui doit être fait sur l'attachement vis-à-vis de l'artiste. C'est une valeur qui, je pense, est assez absente dans ce qu'on observe en ce moment en termes de marketing. C'est-à-dire, à partir du moment où l'internaute ou le fan est attaché à l'artiste, c'est plus la simple relation fan-artiste, mais c'est, une relation de soutien vis-à-vis de l'artiste. Donc j'achète sa musique pas parce que j'aime sa musique, ou pas seulement parce que j'aime sa musique, mais parce que je le soutiens.
Donc tu penses que, dans l'avenir, les artistes vont continuer à vivre par la vente de leur musique ?
Alors là, ici, tu vois, la vision est assez différente parce qu'on ne vend pas forcément la musique. Ici, ce qu'on vend, c'est la possibilité à l'artiste de continuer à créer pour les internautes. Parce que les deux besoins, quels sont les deux besoins d'un artiste finalement ? C'est de se faire entendre et de vivre de sa musique. Et donc, il faut absolument répondre à ces deux besoins-là. Et à mon sens, le fait que les artistes peuvent maintenant vendre eux-mêmes la musique, sans passer par des intermédiaires nombreux, ils ont la possibilité d'en vivre. Toujours dans l'hypothèse où, bien sûr, ils ont du talent.
À ce moment-là, le geste d'achat de la musique change. Il n'a plus vraiment la même signification.
C'est plus la même philosophie qu'il y a derrière l'acte d'achat.
C'est plutôt un geste de soutien, finalement.
C'est un achat de soutien. Ça peut être des dons aussi, sous la forme de dons. Et je pense que les gens sont encore capables d'acheter de la musique. Ou encore la volonté d'acheter de la musique. Un exemple concret, c'est cet artiste qui a cartonné sur MySpace qui s'appelle cet artiste R&B asiatique qui a plus d'1 million d'amis sur sa page MySpace et qui vend tellement de titres sur sa page MySpace que MySpace en est venu à bloquer son widget qui n'était, me semble-t-il, pas affilié à Snowcap avec qui MySpace avait un accord. Parce que MySpace touchait pas un pourcentage sur les ventes. Donc voilà, si les artistes arrivent à générer du buzz et que en plus cet artiste était ne voulait pas signer en major ni en label indépendant, donc du coup elle touchait beaucoup plus de royalties sur les ventes. Donc voilà, ce nouveau, on va dire, mini modèle économique peut faire vivre les artistes.
Alors revenons-en à ton livre. Oui. On était en train de parler de la différence qu'il y avait entre ton mémoire et ton livre. Tu m'as dit que tu t'étais posé d'abord la question de qu'est-ce qu'allait être le livre avant de qui allait être l'éditeur.
Oui.
Donc une fois que tu as eu remanié ton livre, sûrement tu as pensé à un éditeur.
Alors ça a été très rapide, ça a été très simple. Parce que pour moi, l'éditeur, on va dire le seul éditeur qui me paraissait être cohérent, c'était l'IRMA. Parce que c'est une référence. C'est une référence dans le sens où l'IRMA fait un vrai travail de conseil auprès des artistes et auprès des structures indépendantes et aussi bien auprès des professionnels. Et l'IRMA est une référence dans la musique, en ce qui concerne le conseil auprès des artistes. Donc pour moi, ça a été assez simple. Finalement,
donc, t'as passé un coup de téléphone, t'as envoyé un email ?
J'ai passé un coup de téléphone et ça a été assez... Alors j'ai aussi de la chance. Pourquoi ? Parce que l'IRMA avait pour but de lancer une nouvelle collection qui s'appelle Révolutique. Parce que bien évidemment, le milieu de la musique ayant changé, l'IRMA voulait s'adapter à ce nouvel environnement et proposer des ouvrages qui soient cohérents avec l'évolution de la musique, notamment sur Internet. D'où cette nouvelle collection Révolutique. Et donc j'ai eu de la chance parce que justement le lancement de cette collection coïncidait avec l'arrivée de mon bouquin. Donc j'ai pu inaugurer. J'ai pu inaugurer cette collection. J'ai eu beaucoup de chance. Et également parce que l'IRMA, en termes d'édition et d'un point de vue de l'édition, fait un travail qualitatif qui est assez important, qui est assez impressionnant, assez énorme. J'ai été suivi par Jean-Noël Bigotti, qui a fait un travail énorme sur le bouquin, dans le sens où je ne suis pas auteur. Et bien évidemment, il faut adapter aussi la tonalité du livre de manière à ce qu'il soit lisible et compréhensible de tous.
Alors justement, quels échanges t'as eu avec l'éditeur sur le fond comme sur la forme ?
Alors sur le fond comme sur la forme, l'éditeur, parce que moi je suis pas du tout auteur à la base, l'éditeur m'a expliqué comment il fallait par exemple utiliser les sources. Je cite pas des sources n'importe comment. Et moi j'étais là, je citais un tel, je me foutais de l'autorisation d'un tel, je prenais des tableaux, je prenais des citations à droite à gauche, etc. Parce que bien évidemment, pour faire un travail sérieux en termes de veille, il faut s'appuyer sur des faits, des arguments solides. Mais après, il faut aussi savoir les amener avec une bonne tonalité, les retravailler, les exprimer de manière plus claire, à sa sauce un peu.
Donc là, concrètement, comment t'as fait pour reprendre des tableaux, des graphiques ? Parce qu'il y en a beaucoup dans le livre.
Il y a beaucoup de tableaux et de graphiques et d'informations chiffrées. L'éditeur m'a expliqué qu'il fallait que j'appelle les gens qui étaient à l'origine de ces tableaux pour leur demander l'autorisation, quelles étaient les conditions, etc. Et ça, c'est intéressant. Voilà, ça, c'est un aspect intéressant, c'est qu'on ne fait pas ce qu'on veut à partir de sources qu'on trouve sur Internet.
T'as eu des refus ?
C'est normal. J'ai eu aucun refus, je crois. J'ai eu aucun refus. Toutes les structures ont accepté, d'ailleurs je les remercie toutes, d'utiliser leurs sources. Donc ça c'est une première chose. Et c'est vrai que pour les jeunes auteurs, s'il y en a qui écoutent, c'est un point qui est important et qu'il faut retenir et de ne pas non plus utiliser des citations sans avoir l'autorisation des gens. Et c'est vrai qu'on n'en a pas conscience, mais c'est effectivement une chose importante. Deuxième point, c'est un travail en termes, on va dire, purement de français. Puisque à partir du moment où tu pars sur une base qui est purement scolaire, c'est pas intéressant pour les gens de lire quelque chose qui est très scolaire, très chiffré, où c'est de la pure analyse. Donc là, l'idée, ça a été le travail que j'ai fait avec Jean-Noël Bigotti, c'est aussi de donner un aspect un peu plus pédagogique au livre. Dans le sens où Jean-Noël aussi a retravaillé le bouquin pour qu'il serve de manuel d'outils. De manière à ce que les artistes se disent, ouais, là je vais monter un blog, comment je vais faire ? Je vais aller voir le bouquin de Borel, je vais essayer de me référer à telle page, à tel chapitre, et je vais essayer de suivre ses conseils. Alors qu'est-ce que c'est qu'un blog ? Pourquoi il faut utiliser un blog ?
C'est mis dans la peau du lecteur.
Voilà, c'est aussi mis dans la peau du lecteur. Comment je peux utiliser le blog ? Quel est l'intérêt du blog ? Pourquoi il faut insérer un radioblog ? Pourquoi je peux sonoriser mon blog ? Voilà. Donc c'est aussi un travail, non seulement un travail qui a permis au livre d'avoir un aspect un peu manuel outil, mais aussi pour essayer d'amener une certaine prise de conscience auprès des artistes.
Qu- quels sont les éléments que tu as fournis à ton éditeur ? Des fichiers Word
C'était beaucoup d'échanges Word.
Ouais.
Beaucoup d'échanges Word avec Jean-Noël Bigotti, où il a surligné les passages qui n'allaient pas, qu'il fallait retravailler, les corrections, les fautes d'orthographe. Qu'est-ce que je pourrais ajouter ? Les sources qu'il fallait justifier, qu'il fallait expliciter. Donc c'est un travail qui a été extrêmement long parce que n'étant pas auteur, j'avais pas toutes ces connaissances-là. Ça a pris quelques mois, mine de rien. Et en plus, il faut jongler ça en tant qu'auteur, en plus avec les projets qu'on a à côté, parce que je suis pas auteur, quoique j'ai passé, on va dire, une grande partie de mon temps sur ce bouquin, mais je suis pas auteur à plein temps. Néanmoins, ça a été intéressant pour moi dans le sens où j'ai découvert le monde de l'édition. Donc quelque part, l'éditeur, à chaque fois qu'on dit voilà Borel, qu'est-ce que tu penses, est-ce que tu peux parler de ton livre? Non, pour moi, je peux pas dire que c'est mon livre. Je dirais c'est notre livre parce que l'IRMA a fait un travail important derrière.
T'as choisi le bon éditeur alors.
C'était pas vraiment un choix parce que c'est un choix qui s'imposait à mes yeux. Et j'ai eu de la chance de tomber sur un éditeur qui était extrêmement sérieux dans le travail de l'édition.
Il n'y a pas eu des problèmes techniques au niveau des échanges entre toi et l'éditeur ?
Non, pas de problème technique dans le sens où effectivement les échanges par mail sont très pratiques et permettent une certaine réactivité. Hein. Ça, c'est génial.
J'imagine que tu vas envoyer un exemplaire du livre aux enseignants qui faisaient partie du jury de ton mémoire.
J'ai eu de la chance parce qu'au lancement du bouquin qui s'est fait jeudi dernier, donc le 5 avril, j'avais invité bien évidemment un des membres du jury, d'accord, qui s'appelle Richard Torchin, et qui m'a suivi pendant ce mémoire et qui a aussi jugé de la qualité de mon mémoire. Et effectivement, il a acheté mon bouquin, j'ai pas eu l'occasion de lui donner gratuitement, il voulait absolument que l'acheter et que je le dédicace. Et c'est vrai que le fait qu'un je pense qu'il était assez content quoi, de voir que finalement un mémoire pouvait aboutir à un livre. Et il a fait aussi un travail de conseil énorme par rapport au mémoire, dans le sens où il avait une vision globale et m'a permis de recadrer les choses à chaque fois, parce que lui c'est un consultant. Ouais. Il a aussi été ancien directeur financier chez Polygram, il a bossé avec les plus gros artistes, enfin bref, voilà.
Donc tu as eu une première phase de retour importante déjà au moment où tu as fait le mémoire.
Déjà, c'est surtout à partir du moment où je me suis dit, j'ai beaucoup capitalisé sur le mémoire. Je me suis dit, j'ai fait un mémoire, il a été noté, il a été jugé, bon voilà. Mais je voulais pas en rester là. À quoi ça sert de faire de passer 6 mois, 1 an à faire de la veille? C'est pour juste avoir une bonne note, être félicité par le jury et basta. À la limite, moi, la note, je m'en foutais un peu. Les félicitations, je m'en foutais un peu parce que le but, c'était aussi d'être diplômé. Bon voilà, j'ai pas fait le mémoire pour simplement avoir des félicitations et être diplômé. C'était pas le but, parce que c'était un travail aussi c'est un travail de passionné quoi. Après je voulais partager mes idées et engendrer des échanges pour améliorer la qualité de ma réflexion et avoir un peu plus d'éléments, surtout dans le concret. Donc j'ai envoyé ça à des gens de l'industrie du disque, j'ai envoyé ça à des professionnels des nouvelles technologies et voilà, c'est aussi un excellent, à mon avis, outil, par exemple, pour les étudiants, pour trouver du boulot. Autre point, le mémoire, le livre et le blog m'ont permis d'avoir une crédibilité dans le milieu professionnel de la musique. Parce qu'à chaque fois que j'ai rencontré des gens du milieu du disque, certains avaient déjà lu mon blog, ce qui était assez marrant de rencontrer des gens qui vous connaissaient, mais que moi, je connaissais pas. Donc ça, c'était assez marrant.
Tu leur conseilles d'ouvrir un blog.
Voilà. Et également d'intervenir dans des conférences. J'ai participé au festival de romans, qui était le premier festival de la création sur Internet. Je vais participer à une conférence qui va se dérouler à la Sorbonne, qui s'appelle Les États généraux de la musique. J'ai participé à une conférence à la Bibliothèque nationale François Mitterrand sur le patrimoine culturel numérique. Je vais faire des formations, des missions ponctuelles de consulting, des choses comme ça.
Et là, tu es en pleine période de promotion maintenant pour ton livre.
Exactement. Là, en ce moment, je suis en pleine période de promo.
En ce moment même, précisément.
En ce moment même, précisément. Donc, le travail de promotion n'est pas simplement un travail qui est unilatéral, dans le sens où, par exemple, ce podcast qu'on est en train de faire me donne l'occasion aussi de partager mes idées et pas uniquement de parler du bouquin.
Là, en l'occurrence, tu nous dis comment tu l'as fait.
Alors, tout à fait. Et autre exemple concret, c'est vrai que je m'occupe beaucoup de la promo d'un point de vue. Je m'investis personnellement parce que c'est important. J'ai envie d'être proche des médias, d'être proche des internautes, d'être proche des gens qui s'intéressent à moi, ou du peu de gens qui s'intéressent à moi. Et c'est vrai que par exemple, dans les interviews que je donne, j'essaie de pas balancer des astuces. J'ai fait une interview pour Europe 1, j'essaie de pas balancer des astuces pour les artistes. Donc voilà, j'essaie aussi de profiter de la parole qu'on me donne pour faire partager mes idées.
Maintenant que le livre est sorti, qu'est-ce que tu ferais différemment si tu avais le refaire ou si tu allais en faire un autre?
Ah, ça c'est une bonne question.
Ah.
Il n'y a pas beaucoup de choses que je voudrais refaire parce que j'ai quand même voulu expliquer des choses qui étaient basiques et à mon avis qui vont évoluer que dans un certain temps parce que les blogs, les flux RSS, les podcasts c'est toujours d'actualité, ça le sera toujours. Mm-hmm. Ça va même évoluer, ça va même progresser, je pense que ça va connaître une croissance exponentielle et que ça va s'élargir au grand public. Après effectivement, le temps où j'ai... on va dire entre le temps qui s'est écoulé lorsque j'ai remis le manuscrit à mon éditeur et maintenant, il s'est écoulé quelques semaines et il y a eu beaucoup d'évolutions. Alors je pourrais me dire ouais, je regrette de ne pas avoir parlé de ça, de ne pas avoir parlé de Last.fm, de Pandora, de ces sites communautaires qui ont explosé aux États-Unis. Mm-hmm. Mais finalement, l'avantage du blog, c'est que je peux mettre à jour mon livre. Et ça c'est génial le blog, voilà. Mm-hmm. C'est que le blog n'est que la continuité. Alors le blog a été les fondations du livre et devient aussi la continuité du livre. C'est ça qui est intéressant. Et donc, à chaque fois que j'ai des news, des choses que je veux partager, je les mets sur le blog et je les partage avec mes lecteurs. Donc, c'est un moyen aussi de mettre à jour mon livre.
Et au niveau de la méthode de travail, qu'est-ce que tu ferais différemment ?
J'essaierai de faire plus d'interviews parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'interviews pour le bouquin, mais d'un point de vue quantitatif simplement. J'en ai fait beaucoup plus lorsque mon blog a commencé un peu à connaître une petite notoriété. Mmh. Je dirais pas croissance au niveau de l'audience parce que j'ai une audience qui est très qualifiée, qui est très limitée et très qualifiée. Parce que je cherche pas à avoir 10 000 visiteurs uniques par jour. Je cherche à avoir des gens qui s'intéressent à la musique et qui recherchent, qui veulent bénéficier de conseils gratuitement. Donc, soit les artistes, les professionnels des nouvelles technologies, les professionnels de la musique. Dans la méthodologie, je pense que j'essaierai de faire un livre qui soit plus interactif et qui sera encore plus lié au blog. C'est-à-dire que je renverrai plus non plus à des sources de journaux, etc., mais à des interviews vidéo du blog. Ce sera un livre vraiment web 2.0. Mmh. Et peut-être un livre qui sera plus collaboratif. Dans le sens où je lancerai une idée et j'essaierai de prendre des idées professionnelles à droite à gauche, les synthétiser et en faire profiter un maximum de gens.
Et est-ce que tu t'orientes vers d'autres livres ?
Pour le moment,
ou est-ce que tu as d'autres projets plus importants aujourd'hui ?
Non, pour le moment, par rapport au bouquin, je pense que vis-à-vis de ce bouquin-là, il y a une vraie demande. Il y a une vraie demande parce que MySpace explose, parce que Dailymotion ça explose, parce que Watt c'est une plateforme qui a un potentiel énorme.
Est-ce qu'on pourrait imaginer des livres techniques, comment utiliser MySpace, comment ça
se passe là ? Le livre « Comment utiliser MySpace » existe déjà aux États-Unis, par exemple. Mmh. En France, je pense qu'il y a une vraie opportunité. Je connais d'ailleurs quelqu'un qui travaille dessus, je ne peux pas en dire plus.
Oh oh.
Et qui va, en plus, quelqu'un qui a une réflexion assez extraordinaire sur MySpace et qui va, à mon avis, qui va cartonner. Quoi. Mmh. Moi, mon bouquin ne parle pas uniquement de MySpace. J'avais pas envie de me focaliser sur une chose parce qu'il y a tellement d'outils qui peuvent servir aux internautes que je voulais parler un petit peu de tous ces outils-là. Mmh. Pour le moment, je pense que le bouquin a vraiment une grande place parce que les artistes, y a beaucoup d'artistes qui ne connaissent pas encore le web 2.0, comment utiliser cet outil pour se faire connaître, et c'est dommage parce que c'est des outils qui permettent de se faire connaître à moindre coût. Donc l'idée, mon état d'esprit en ce moment, c'est profiter du livre et essayer de capitaliser sur le livre pour vous faire connaître. Je vais dire oui, acheter le livre. Oui, le livre coûte 16 €, voire un petit peu plus pour les distributeurs qui se font une marge dessus. Mais je veux dire, c'est pas un achat sur lequel on lit un livre et basta. C'est entre guillemets un petit investissement. Si j'achète 16 €, mais avec les outils, les conseils que je donne, l'investissement sera vite rentabilisé.
Alors on va terminer par le conseil pour les débutants, ceux qui voudraient écrire un livre qui ferait une analyse comme tu l'as faite là.
D'accord.
Est-ce que ça serait justement d'aller vers une écriture plutôt collaborative ?
Alors ça dépend. Je pense que l'écriture collaborative, elle est nécessaire lorsque c'est cohérent avec le projet, avec le sujet, avec la personnalité, avec le réseau de contact de l'auteur. Effectivement, l'aspect collaboratif, l'aspect « j'ai monté un blog et je deviens auteur » est très à la mode en ce moment. Mmh. Mais non, moi ce que je pense, c'est que le blog est un excellent outil d'information et de, et de relations avec l'univers extérieur, avec le monde extérieur, et effectivement peut nous venir nourrir simplement la réflexion. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, le blog est aussi un moyen de communication qui permet d'être en contact avec ses lecteurs. Donc c'est le blog est un peu un deux casquettes, hein. C'est un outil de communication et un outil d'information.
Donc tu conseilles le blog quoi qu'il arrive?
Oui, moi je pense que le blog, l'avantage du blog, c'est qu'il permet de créer une vraie relation, une proximité effectivement avec ses lecteurs. Après, bien évidemment, ça dépend de l'auteur. Ça dépend de l'auteur. Il y a des auteurs qui préfèrent tout communiquer sur le bouquin, tout capitaliser sur le bouquin. Et c'est un choix. Après, je pense qu'avant, les auteurs ne pouvaient pas entrer en communication avec tous leurs lecteurs. C'était impossible. Maintenant, on le peut, donc profitons-en.
Donc, merci Boré.
Merci Nicolas.
À bientôt.
À bientôt. Salut.